Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Paco, auteur de BD qui a mis en scène sa paternité avec sa fille Maë en dessin, d'abord sur son blog, à l'époque des blogs, puis aujourd'hui sur Instagram. Paco explique qu'il n'a jamais voulu avoir d'enfant et raconte son déclic de père juste après la naissance de sa fille. Vous allez voir à quel point le cerveau fait parfois le boulot magnifiquement. Il partage aussi son appréhension d'avoir une fille, notamment parce qu'il était, je le cite, très macho, et tout ce que cette fille lui a apporté en tant que bonhomme. Petite parenthèse d'ailleurs en parlant de bonhomme, mais je vous invite à découvrir mon nouveau podcast qui s'appelle Histoire de mecs, où je fais parler des mecs de leur rapport à leur masculinité. Le premier épisode est avec Cyrus North, on parle de plein de choses, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode, vous m'en direz des nouvelles. Allez, parenthèse fermée. Pour revenir à Paco, on parle de son rôle de beau-père, puisqu'il vit avec la fille de Margot Motin, qui est elle aussi autrice de BD. Il évoque aussi le package, comme il le dit, que tu prends quand tu te mets en couple avec une autre personne qui a aussi un enfant. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec Margot Motin dans Histoire de succès. Stay tuned, comme ils disent aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Mais j'arrête de parler autant, je vous laisse directement en compagnie de Paco.
J'ai aucun a priori, tu sais, je sais pas où on va aller, donc okay. Et puis c'est ça qui va être marrant, je pense. Je réfléchis aussi pendant que je parle.
Ouais, mais c'est
tu vois, tu veux dire
en fait, je
c'est
pense
une maladie.
Mais il y a aussi un autre truc, c'est que je pense qu'il y a pas mal de mecs qui réfléchissent pas trop à la paternité.
Ah ok, ah non, ça non, si ça j'ai vachement réfléchi.
Et il y a un côté, mais parce que tu l'as mis en scène, tu l'as dessiné,
peut-être, ouais,
tu as raison,
t'as
pris
ouais.
le temps de te dire ok, comment ouais. ça fonctionne, mes rapports, etc.
Ouais.
Mais il y a pas mal de mecs qui réfléchissent en me parlant, si tu veux, okay. et qui découvrent des trucs en parlant.
Donc, ah oui, ça je pense que ça m'arrive.
C'est un peu le principe de la thérapie de toute façon.
Hein, ben ouais, je peux m'allonger là
tu
ou pas.
Tu veux t'allonger?
Ouais, c'est que depuis tout à l'heure j'ai envie, mais bon, tant pis. Je risque de ronfler, ça va être chiant. Ça va être pénible pour tout le monde.
Bon, Paco, merci beaucoup d'être là.
Avec grand plaisir.
Comment tu te définis aujourd'hui? Tu dis que tu es illustrateur, dessinateur, auteur de BD.
C'est une bonne question. Aujourd'hui, je suis auteur de BD parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Et je dessine aussi beaucoup pour Insta. Donc, mais je suis auteur de BD, t'as raison. Mm. J'en sors en librairie et j'en sors aussi pas mal sur Instagram, sur les réseaux. Donc, on peut s'arrêter à ça, ouais, si ça te va.
Oui, moi, ça me va.
Génial.
T'as un parcours un peu particulier de, ouais, d'auteur parce que à la base, t'es.
Pas ça du tout, ouais.
Voilà.
Ouais, là-bas, je suis né, déjà. Donc, tu dis, bon, bah, là-bas, j'étais un bébé. Donc, mon parcours, il est effectivement assez. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai toujours voulu dessiner. J'ai toujours voulu raconter des histoires et toujours voulu faire de la bande dessinée. Mais la vie a ça de formidable, c'est qu'elle m'a mis plein de bâtons dans les roues. Ce qui aurait pu m'affaiblir, mais il se trouve que ça m'a renforcé. Mmh. Donc, je suis arrivé très tard sur la BD, et c'est marrant parce que le lien, tu verras, il est magique. Lorsque la mère de ma fille, je dis bien la mère de ma fille parce que on n'est plus ensemble, mmh. était enceinte et faisait un bébé, mais moi, ça m'a rappelé que j'avais toujours voulu faire de la BD. Tu vois le truc. On parlait de thérapie, ça, je vais m'allonger dans pas longtemps. Mais avant ça, tu as raison, j'ai fait plein de trucs. J'ai aussi, j'ai été directeur artistique pour la bande dessinée. Est-ce que je voulais me rapprocher un petit peu de ça? J'ai monté ma boîte. Je l'ai dirigé pendant 15 ans. Ce qui m'a permis, c'était une boîte de com. Donc, de bien comprendre déjà comment fonctionnait la communication. Ce qui m'a permis aussi de, parce que je voulais travailler donc avec les institutionnels, mais aussi vachement avec le milieu du divertissement. Donc, j'ai appris, l'envers du décor. C'est-à-dire que j'ai appris à faire leur com, je leur ai parlé du chef de produit au directeur de collection. Mmh. Donc voilà, j'ai pas fait mes classes en tant qu'auteur de BD, tu vois, pendant ces années-là, mais pendant toutes ces années, j'ai appris à gérer du business et puis à discuter avec des intervenants dans ces, dans ces, dans ce, dans cet endroit-là, dans ce, bref, dans ce, je sais plus comment on dit, je suis fatigué, j'ai pas assez dormi, j'ai pas fait mes nuits. et donc, ce qui fait quand j'ai commencé, quand j'ai décidé d'arrêter cette boîte et de faire vraiment ce pourquoi j'étais là sur Terre, tu vois, j'avais compris que j'étais là pour ça. Donc quand j'ai arrêté, effectivement, j'ai dû vraiment apprendre le métier d'auteur de BD. Mais il y a tout un aspect du métier que je connaissais et qui m'a vachement servi, c'est-à-dire savoir comment parler à ces interlocuteurs-là, savoir ce qui est important pour eux, savoir ce que c'est qu'un contrat. Vraiment le truc, comprendre qu'un contrat, c'est un acte politique, en fait, qui crée une dépendance entre deux individus. Et tu peux ne pas accepter ça. Tu peux obligé de te rebeller. Mais tu peux obligé de te soumettre. Et comme c'est un petit peu ça mon délire, c'est je veux ni être rebelle, mais ni soumis. Donc, ça m'a permis de construire ça, cet aspect qui était hyper important. Donc je suis pas un grand dessinateur, je suis pas un grand auteur, mais avec le temps ça va arriver. Mais je peux m'appuyer sur la compréhension du système qui m'a permis de hacker un peu certains trucs et d'arriver peut-être plus vite que d'autres. Mais bon, voilà. Grand résumé, t'as vu ?
Non mais
l'erreur de réfléchir en parlant, c'est que j'en rajoute trop.
Non mais c'est pas ça. C'est que on va reparler après de ta révélation de vouloir faire de la BD pendant que ton ex attendait un bébé.
Ouais.
Mais avant ça, la question que je pose à tous les papas, c'est comment t'en es venu à vouloir devenir papa ?
Alors ça va être très choquant ce que je vais dire, mais
On retient notre souffle.
Ouais, c'est très choquant. Je n'ai jamais voulu être papa. Parce que peut-être qu'on m'avait pas bien montré ce que c'était qu'être papa et je pensais que je voulais pas imposer ça à un enfant.
Ah.
Tu vois, je pensais que j'avais le boulot avait pas été, le diplôme de papa, je l'aurais pas parce que j'avais pas fait les bonnes écoles de papa. Je pense que l'apprentissage, c'est quelque chose qui se transmet, donc je dirais que ça, on me l'a pas transmis. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, oh, c'est pas ton truc, tu vas vivre tranquille. Même la famille, c'est pas mon délire. Je me voyais finir ma vie, tu sais.
T'avais un père qui était pas trop dans le coin, c'est ça ?
Ouais, il était pas trop dans l'air. Il m'a eu très jeune, tu sais, okay. Il m'a eu très très jeune, donc... C'est quand je suis devenu papa que j'ai compris un peu tout le délire, tu vois, que j'ai pu avancer.
Ça aide.
Mais ouais, tu vois, tant que j'étais un enfant, même si je suis resté un enfant très longtemps, je pigeais pas. Et donc, effectivement, pas forcément dès que je suis devenu papa, mais petit à petit, avec j'ai le compris temps. Le délire. J'ai compris. Et puis, la chance que j'ai eue, mais beaucoup plus longtemps, c'est que mon père et moi, c'est ce truc de ouf, hein, c'est un miracle de la vie, c'est-à-dire que on s'est vraiment reconnecté après des siècles et des siècles. Donc bon, bref, mais ça, je referme ça. Je te disais que je voulais pas l'être, je voulais même pas avoir de famille, je voulais rester un grand célibataire, alcool sur la table, slip sur la tête, musique tout le temps et tout ça dans une boîte de nuit, et je me voyais finir comme ça, tu vois, c'était mon idéal de vie. Et puis, le lendemain d'une cuite, je suis tombé sur une jeune fille et il se trouve que je me suis dit peut-être que je devrais réviser un peu ce concept-là. Peut-être que cette nana-là, peut-être qu'effectivement c'est peut-être l'occasion de réviser ça. Je pensais pas encore avoir un enfant, mais je me disais tiens, il se trouve que sur Terre il y a peut-être une nana qui me correspond et je me suis pas complètement planté, mais je me suis un petit peu planté parce qu'elle ne m'a pas correspondu pour toute ma vie, mais elle a quand même été la mère de ma fille. C'est un cadeau de ouf, mine de rien. Surtout quand je voulais pas fêter Noël, tu vois. Surtout quand je voulais pas avoir de cadeau. Donc ça a été assez grandiose. tu vois, c'est vraiment le cadeau. Donc j'ai Maé. Je suis futur papa. Je l'ai très bien vécu. J'ai juste passé une semaine à boire de l'alcool et à jouer aux jeux vidéo.
Quand t'as appris que t'allais devenir...
Quand j'ai appris que je vais être papa. Évidemment, c'est de l'ironie.
Non, mais c'est vrai ou pas? T'as vraiment fait ça?
Ah ouais, j'ai vraiment fait ça. Ouais, j'ai vraiment fait ça. Je me suis dit, bon, elle est là. C'est la femme de ma vie. C'est absurde de dire non. Donc je dis oui. Mais il a fallu quand même que je digère. Mais alors, les 9 mois, j'étais pas papa. Je sais pas si tu as connu ça, on en parlera après, tu m'expliqueras ça, mais j'ai compris un truc, c'est vrai que sans genrer la paternité ou la maternité sans genrer ça. En tout cas, ce que j'ai vécu avec ma, avec mon ex-femme, c'est que elle, dès qu'elle l'a appris, on sent que, tu vois, parce que peut-être que déjà génétiquement, peut-être qu'à l'intérieur d'elle, peut-être que les hormones, peut-être que tout ça a fait que ça a déclenché des choses. Je rentre pas là-dedans, je sais que le sujet est toujours touchy, mais mon interprétation, c'est qu'effectivement, ça a déclenché des choses à l'intérieur d'elle qui font que tout son organisme s'est tourné vers la maternité de manière extrêmement naturelle, extrêmement forte.
Bah déjà, ça se passe en elle, alors que...
Exactement.
Nous, en tant que père, comme des cons, on est pas. En train de regarder, on fait ce qui se passe. Bon, déjà, en plus, pendant les premiers mois, ça se voit pas physiquement.
Ouais.
Donc il y a un truc, quoi. Et bah, toi
bah, pas du tout. Alors, j'étais pas père, j'étais effectivement protecteur de cette matrice qui allait recopier une moitié d'elle, une moitié de moi, tu vois. Donc je sentais que j'avais un truc à faire dans le délire. Mais c'était plus un délire de ok, je vais être présent, je vais protéger, vraiment je vais faire en sorte que ça se passe bien pour elle. Mais j'étais pas papa, et je l'ai compris quand je suis devenu papa, et je t'ai expliqué ça après,
parce qu'en fait Maë est arrivée, c'était pas vraiment prévu entre vous.
C'était pas vraiment prévu.
Ok,
voilà, c'est-à-dire qu'effectivement c'était pas un projet familial. Et puis j'étais pas prêt à ce moment-là, mais la vie a quelque chose de magnifique, c'est que soit tu acceptes que c'est plus fort que toi, et qu'il y a des choses effectivement sur lesquelles tu dois avoir de la volonté, tu dois avoir du courage, et puis il y a d'autres choses sur lesquelles tu dois lâcher. Et là concrètement, c'était le truc sur lequel je vais lâcher, c'est-à-dire que évidemment que j'étais pas prêt, je n'aurais jamais été prêt.
Tu vois, tu penses vraiment?
Ouais, vraiment. Ouais, okay. Oh, oui. Donc si ça ne s'était pas fait comme ça,
okay.
Parce que en plus je l'ai eu tard et tout, tu vois.
T'avais quel âge?
Là, j'ai quoi? J'ai 53, un truc comme ça. Non, sérieux, sérieux. Donc, je dois avoir... Non, mais c'est vrai, je vais te montrer mon passeport.
Non, mais c'est pas ça. C'est...
Ah bon, t'es OK avec moi, t'es d'accord avec moi? Oui, je fais un truc de daron. Non, je fais un truc de daron. Alors là, aujourd'hui, on est en 2020. Maë a donc 16 ans, donc je te laisse faire le calcul. Je dois avoir une quarantaine d'années, une trentaine d'années. Ouais, je sais plus. Je t'avoue que là, c'est trop tôt pour moi.
T'étais pas, oui, c'est ça, t'avais pas entre. L'âge moyen, il est à 20.
Mais moi, j'avais dépassé le game de l'âge moyen. Moi, j'étais déjà ménopausé, tu vois. C'était fini. Donc, effectivement, je mets là. C'est toujours pareil, c'est que. Alors, là, donc, je te disais que. Là-dessus, j'ai. La vie a été plus forte que moi, et merci, parce que. Lorsque je suis devenu papa. Évidemment, je vais te dire une banalité, mais ma vie a complètement été bouleversée. C'est-à-dire que le corps est là, mais l'univers est différent, quoi. C'est-à-dire que il n'y a plus rien de pareil. Alors, je vais t'expliquer, parce que...
Attends, avant d'aller plus loin, non, parce que
je te suis.
T'es en train de griller un peu des étapes.
Okay.
Comment, parce que tu dis que justement, pendant cette grossesse-là, tu ne te sens pas papa.
Non.
Pendant toute la grossesse.
Pendant les 9 mois.
Les 9 mois.
Les 9 mois. Je vois bien qu'il y a... un alien qui est là. Je vois bien que la magie de l'univers est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que à partir de 2 gamètes, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais il y a un truc qui pousse dans le corps de la femme que j'aime. Mais c'est extrêmement virtuel, et c'est d'autant plus virtuel pour moi que elle, de son côté, c'est carrément réel. Elle le sent, elle son corps change. Bon, t'as été papa 2 fois, donc t'as vécu le truc 2 fois. Tu vois bien que il y a une mutation complète de la femme. C'est-à-dire que, en plus, elle, c'était son premier, donc elle passe de jeune fille à voilà, elle prend des rondeurs, elle a des nausées, et puis ça va mieux, elle a la patate, et puis elle touche son corps, elle le ressent. Moi, je touche son corps, je sens, mais je ressens rien. Et je suis pas papa. Mais ça me prend pas la tête, en fait.
Okay.
Tu vois, c'est, et il y a certaines choses aussi qui sont assez précises, qui montrent que je suis pas papa. C'est-à-dire que, elle, tout est urgent, en fait, pour le bébé. Tu vois, il faut nidifier, il faut que tout soit là, il faut que tout soit prêt, alors que moi, urgent, quoi, je ressens rien, donc il y a rien d'urgent. On a dû lâcher la poussette 3 mois avant, comme tout le monde. Moi, j'y allais à reculons, j'avais aucun intérêt, alors qu'elle était fébrile. Tu vois, on a tout acheté 3 mois avant, alors que, bon, moi, j'y allais, pour lui faire plaisir.
Tu avais envie de repousser l'échéance, tu penses?
Pas du tout.
C'est parce que t'étais pas prêt dans ta tête?
C'était ni prêt ni pas prêt. Okay. C'était juste. Voilà comment j'ai vécu. Il y a 2 individus. Un individu qui est en contact direct avec une réalité qui est bordel de merde. Je suis déjà maman. Tu vois, c'est même pas je vais être maman. Je vais accoucher, mais elle est déjà maman. et un autre qui est là en train de dire bordel de merde, je vois rien. je ressens rien, je vois rien, je. Et donc pendant les 9 mois, effectivement, j'étais là, j'étais présent, j'ai fait tous les trucs de daron, j'ai suivi au cours, mais je le fais de manière un peu cynique, mais tu penses bien que je l'ai vécu avec une grande émotion et une grande fébrilité, mais pas porté vers l'enfant, mais porté vers ce moment et porté vers elle.
Okay.
Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a un moment où ça a basculé. Il y a un moment où j'ai compris que ça a été, c'était fini, j'étais cramé, et j'étais père.
Cramé.
Ouais, non mais parce que c'est, tu vas voir, je vais te raconter l'anecdote, tu vas voir qu'effectivement tu te rends compte que le cerveau, il a dit on arrête, on disjoncte et on rebooste, on fait mais sur autre chose, sur quelque chose de différent. Ma fille naît. Donc je passe l'accouchement, si on reviendra après, mais c'est pas ça, mais ma fille naît en pleine nuit. L'anecdote marrante, c'est que est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle le Doc, tu sais, qui une vieille émission des années 60, des années, tu sais, avec Difool, ça Difool, te parle,
ouais.
Ça
ouais, bien sûr.
Ok, bah, ce mec, c'était le pédiatre de ma fille. Oh, pas le pédiatre, mais l'accoucheur, je sais pas quoi. Donc, l'anecdote, c'est qu'il y a deux anecdotes. C'est que la première, c'est que ce mec, j'entends sa voix se retourne, c'est le Doc. C'est impossible d'être sérieux. Tu vois, le mec, il t'explique que tout va bien pour ton enfant. Bon, voilà, donc ça, c'est le premier truc qui est marrant. Et le deuxième truc qui est marrant, un peu moins pour moi, c'est que donc je laisse ma fille à 2-3 heures du matin, je prends les couches, je prends tout, je prends les fringues de mon ex, je rentre à la maison dans cette baraque, dans cet appart où je suis seul, je dors, et je rêve. Donc je dors 2-3 heures, et je suis réveillé par un cauchemar. On m'enlève ma fille. Anodin. Sauf que je me réveille en sanglotant. Tu vois, gros bonhomme et tout, machin, et je chiale. Tu vois? Et là, j'ai su en me levant que c'était terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'étais papa. Et pas de manière intellectuelle, genre « Ah ouais, j'ai chialé, donc je comprends que... » Non, j'ai chialé comme un gamin, et il y a une espèce de truc qui s'est ouvert. Et alors, ça s'était déjà ouvert quand je l'avais vu, mais la fatigue, tu sais, tout ça fait que... Et là, c'était terminé. Là, j'étais papa. À tel point que il est 4 heures du mat, la chambre que... mon ex me demande de faire depuis des mois, je l'ai faite en 4 heures. Le lit, le truc, tu vois, mais de manière animale.
Okay.
Tu vois, c'était maintenant, il était temps maintenant que j'assume ma responsabilité de père, mais encore une fois, c'est pas intellectuel. Hein.
Ouais.
Donc je suis là avec les cartons à tout démonter et je monte ce truc en 2 heures seul. je hurle comme dans la guerre du feu à la fin, tellement content d'avoir fait mon boulot de bonhomme. C'était ça l'anecdote de... Okay. À quel moment j'ai su que j'étais père. Et là, c'était fini, en fait. Plein de réflexes un peu égoïstes, normaux, puisque, bon, j'ai jamais vécu pour quelqu'un. Tout ça, ça a été, petit à petit, ça s'est effacé avec le temps. Marrant.
Non, pas marrant. Enfin, normal, non?
Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais pas beaucoup de gens, beaucoup de mecs, ressentent ça. Je sais pas si déjà beaucoup de mecs ont ressenti ce truc-là. Je sais pas si beaucoup de mecs ont chialé le jour de la naissance de leur enfant.
Moi, j'ai chialé ma race.
T'as chialé ta race, mais on est des bonhommes sensibles.
Mais à l'accouchement.
Ah,
donc vraiment le moment de la rencontre. Ouais.
Alors, c'est marrant ce que tu dis. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que Maï avait une tête un peu trop grosse, donc on a dû faire une césarienne et j'ai pas assisté au truc.
Ah peut-être, oui, ok.
Peut-être
d'accord.
Effectivement. Tu vois, comme quoi, je découvre des trucs...
La délivrance, c'est un moment fou, quoi.
Bah ouais.
Mais ceci dit, je pense que j'étais prêt, moi. Tu sais, je m'étais préparé. Dans ma tête, j'étais déjà papa, tu vois. Donc
ok.
Et je pense que... Peut-être...
Mais intellectuellement ou émotionnellement?
Émotionnellement aussi.
Ah, émotionnellement, ouais. Ok, d'accord.
Mais tu vois, ton cerveau, il t'a juste dit, hey, « Eh mec, je vais t'aider à débloquer un truc. Imagine-toi, on t'enlève cet enfant. »
Oui, exact. Mais c'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. T'as pas encore... Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être que j'étais prêt et je faisais un blocage.
Tu repoussais.
C'est possible.
Peut-être t'étais en train de devenir l'adulte que t'avais peut-être pas envie de devenir, en fait. Je te dis ça parce que
c'est très juste.
Qui revient régulièrement, tu sais, dans les histoires de daron, dans les interviews que je fais, c'est que t'as un peu ce truc où toi, en tant que jeune homme, tu projettes un truc sur la paternité qui fait que ta vie est désormais terminée, quoi.
Oui, c'est très juste ce que tu dis. Ce qui est faux.
Ce qui est faux.
Ce qui est complètement faux.
Elle est différente. On ne peut pas dire qu'elle est pareille.
Non, non, mais alors c'est marrant ce que tu dis parce que je ne vais pas faire genre. Je vais pas faire de langue de bois ou truc. Mais je pense que c'est un. Moi, pour moi, j'avais comme un boost en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, elle est différente, évidemment, elle n'est plus pareille, mais ça n'a. J'ai pris conscience, et je le prends conscience de plus en plus, que le fait d'avoir une, d'avoir une fille, et puis une belle fille, donc deux filles aujourd'hui, ça, ça a ouvert des dimensions. Bon, je ne vais pas faire genre grand romantique, mais ça a ouvert le cœur, la générosité. Ça a cassé un peu l'égoïsme fondamental que j'avais. Et c'est. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que je pense que là, à cet âge-là, j'aurais été encore mais plus con que je le suis, et ça aurait été insupportable pour l'univers. Donc, sans faire de blagues, mais c'est vrai que ça, ça m'a permis de prendre conscience d'énormément de choses qui auraient sûrement été, que j'aurais jamais fait sans la présence de ma fille et puis ensuite de ma belle-fille. Donc voilà.
Ok. Je sais pas trop si tu veux aller sur ce, sur
je vais
ce,
où tu veux et
sur ce chemin-là.
Je vais sur ce qui t'a, sur ce qui
mais t'a. Mais tu me disais tout à l'heure que tu t'étais réconcilié avec ton propre père.
Ouais.
Je pense que l'un des trucs fous de la paternité aussi, c'est que ça nous refoue face à notre père.
Bah,
et que
oui.
Parfois, souvent, les pères de notre génération, ils ont pas vraiment été présents ou pas ouais. été dans,
ouais.
pas été attentionnés, pas
oui.
été beaucoup de mal avec leurs émotions, etc.
Oui.
Et tout ça vient de plein de choses.
Oui.
T'as la sensation aussi, toi, que ça t'a aidé à te réconcilier justement avec, avec cette image du père, peut-être ?
Ah, alors attends, avec l'image du père ou avec,
bah,
avec
deux.
Mon père ?
Les deux. Parce que j'imagine que ton père représente un peu l'image du père.
Forcément, tu as raison. Mais pendant longtemps, ça a été le contre-exemple, en fait.
Okay.
Pendant longtemps, c'était... si je veux être un bon père, j'ai plutôt intérêt à regarder ce qu'il a fait et puis faire l'inverse.
Okay.
mais après, je veux remettre les trucs dans leur leur contexte.
Mmh.
Parce que tu as raison quand tu dis que les pères d'avant étaient, avaient des caractéristiques, et heureusement, ces caractéristiques ont évolué, ont changé. Mais les mères d'avant aussi, la société aussi d'avant aussi. C'est-à-dire qu'on oublie que la société était quand même beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Eh, on oublie. Mais il y avait une dureté sociale. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a les gilets jaunes, il y a tout ça, mais il y a beaucoup plus de. On oublie qu'il y a beaucoup plus de souplesse aujourd'hui. Que moi, je suis né en 67, dans les années 70, et je suis né d'un couple métis. Et je peux te dire que. C'était autre chose. C'est-à-dire, quand je dis que c'est autre chose, c'est pas en bien. Tu
ouais.
vois c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te balades dans la rue, tu vois des couples métis, il n'y a aucun souci. Si, tu peux tomber sur deux connards. Mais fondamentalement, c'est pas un souci. Il peut y avoir des difficultés, mais c'est pas un souci. Pour mon père et ma mère, se balader dans la rue main dans la main, je veux dire, c'était pas la même blague. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même délire. Ils avaient en plus 19 et 20 ans, donc c'était même pas, ils n'aimaient pas évoluer. C'était, ils se faisaient extrêmement, même insultés.
Mm.
Tu vois? Donc, je pense pas aujourd'hui que, à part des débiles mentaux, et puis des mecs très extrémistes, je pense pas que ça soit le quotidien d'un couple métis de se faire insulter. Alors que ça l'était pour mes parents. Tu vois ce que je veux dire?
Je
sais qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui et je suis d'accord avec ces débats-là, mais je trouve que des fois on oublie le contexte dans lequel les choses
Bien
se
sûr.
Sont faites.
Ah ouais, c'est intéressant.
Et on oublie aussi que, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Et on oublie aussi que on peut aujourd'hui jouir de cette liberté, on peut aujourd'hui jouir de notre paternité, peut-être parce que nos parents, même s'ils étaient un peu durs, ils ont fait évoluer un petit peu les choses malgré tout. Tu vois, il y a quand même une grande différence entre la paternité de mon père et celle de mon grand-père.
Bien sûr.
Tu vois, donc c'est des trucs qui sont... Il ne faut pas oublier ça dans la...
Ah ouais.
Tu sais, dans le grand patriarcat qu'on veut combattre. Il faut oublier déjà que... Vaut mieux, je pense, combattre des faits bien précis. Mais bon, après, c'est pas le but. Enfin, tout ça pour te dire que... on s'appuie aussi sur les erreurs et les qualités du passé. Et puis après, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que mon père a été un très mauvais père pour moi. C'était le premier, il avait 19 ans. Et puis, avec le temps, il s'est bonifié. Tu vois, il y a tout ça aussi qu'il faut, il faut prendre du recul. Alors, c'est effectivement, pour soi, c'est hyper frustrant. On peut même être jaloux, on peut même partir en vrille. Mais après, il faut, si on est capable de remettre ça émotionnellement dans le contexte, on se dit, ben, il a évolué, il a progressé. Et aujourd'hui, je bénéficie d'une relation, malgré tout, avec mon père, je peux l'appeler, on peut partager des trucs, tu vois, c'est... Donc je sais pas si c'est là où tu voulais aller, je me rappelle même plus de la question.
Si, si.
Après je sais que j'ai plutôt tendance moi à optimiser les choses, c'est-à-dire tu vois faire en sorte qu'elles soient meilleures qu'elles ne sont au début, tu vois. Donc dès que j'ai la possibilité de rendre les choses meilleures, j'essaye. Je sais que ça se voit pas sur ma gueule parce que je suis un peu fermé, mais au fond c'est un peu mon projet. Tu vois, c'est effectivement la situation est pourrie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer un peu. Donc effectivement lorsque j'ai l'opportunité de faire la paix avec mon père, de faire un petit pas et de voir que lui il faisait ce petit pas, ben j'ai tout fait pour que ça s'accélère. Et à la fin, le résultat est quand même vachement meilleur que, tu vois.
Okay.
L'idée c'est ça, c'est rangé, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de trucs. Quand tu as une pensée, quand je pense à mon père, je me dis c'est rangé. Tu vois, c'est doux. Et donc ce qui veut dire que mes relations avec le reste du monde est forcément un peu plus doux. Et là je te rejoins, les relations avec ma fille. Est forcément différente et forcément plus douce. Donc voilà. Je te laisse poser encore une question ou me dire ce que tu penses de tout ça parce que j'aime bien échanger aussi.
Non, c'est très intéressant.
Merci.
Non, mais en fait, je pense que l'un des trucs qui revient aussi régulièrement chez les darons, c'est leur rapport à leur propre père.
Évidemment.
Il y a un vrai truc et en fait, c'est très dur de s'en défaire ou de s'accommoder ou de faire la paix aussi, tu vois.
Mais je vais faire la paix.
Et en fait, je pense que l'une des étapes de la paternité, c'est aussi ça, en fait. C'est de comprendre, d'arriver à un moment donné ça te sert de miroir, en fait, par rapport à ton propre père.
Oui, et pas que. C'est-à-dire que moi, je vis ma paternité comme une espèce de miroir permanent sur... toutes mes failles, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que ça n'a pas été le début, ça n'a pas été ça, parce que le début j'ai fait que reproduire ce que j'avais appris, et puis à un moment je me suis dit ah ça marche pas, la relation à ma fille elle est pas du tout comme je voulais qu'elle soit, et donc j'étais obligé de d'apprendre différemment. Et le premier truc que j'ai mis au centre de notre relation, c'est la responsabilité, en fait. C'est-à-dire que je pars du principe, une fois que je me suis calmé.
Mais c'était entre quel âge et quel âge, ça?
Ça a été...
Son âge à elle. Aujourd'hui, elle a 16 ans, c'est ça?
Elle a 16 ans aujourd'hui. Quelques années après la séparation, avec sa maman, on a dû se séparer. Maë devait avoir 5-6 ans. Et donc, c'était une période qui était très, 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 très compliquée, où là, tu sais, tous les fantômes de tous les sens remontent. Et donc, la relation est difficile. Et puis, petit à petit, ça prend une direction... qui est insupportable. Et j'ai compris que la seule façon que je pouvais changer cette direction, c'était arrêter de croire que c'était à cause des autres. Tu vois ? C'est de me dire, le seul truc que tu peux changer, ça va être toi, la façon dont tu vas gérer les choses. Donc c'est de ta responsabilité d'apporter les réponses qui peuvent apporter les situations que tu veux. Ça n'a pas réglé le truc tout de suite. Il a fallu des années, et puis c'est une direction. Mais ça a permis... d'agir là, au seul endroit où c'était possible. Tu vois, c'est de se dire... Alors, un exemple concret, c'est tu ranges pas ta chambre, tu fais chier, j'en ai marre, on va s'engueuler, on va se prendre la tête, jusqu'au moment où tu te rends compte qu'elle range pas sa chambre, parce que toi, tu ranges pas ton bureau. Et tu ranges pas ton bureau parce que ça fait pas partie de tes qualités. Donc, comment tu peux apprendre à quelqu'un quelque chose que tu ne connais pas? Donc soit tu te fais aider ou soit tu l'apprends. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a une question de passation, en fait. Tu ne peux passer que ce que tu connais, le bon et le mauvais. Et donc ça veut dire encore une fois que si sa chambre n'est pas rangée, c'est pas de sa faute. C'est de la mienne. Alors c'est pas une question de faute, mais c'est de ma responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de me dire, j'ai trois choix. Soit je la laisse mettre autant de bordel que moi dans sa chambre que j'en mets dans mon bureau. Soit j'apprends à ranger mon bureau. Ou soit je délègue ça à quelqu'un qui est meilleur que moi. Et la chance que j'ai, c'est qu'on a quelqu'un ici qui sait faire ça très bien. Mais tu vois, c'était l'obligation de passer par ces questions qui sont... tant que je pense que c'est de sa responsabilité, ça n'avance pas et on s'engueule et on part dans des délires, tu sais, de ouf, quoi. Et qui sont normaux, parce qu'on te dit, il faut que sa chambre soit rangée, comment elle la range pas. Tu vois, donc voilà. Donc le premier truc, c'était ça.
Ok.
Je te laisse dans l'impasse, là.
Non, intéressant, j'allais revenir...
Je te remercie de me
jamais dans l'impasse, mon
vieux.
Jamais.
Ok, challenge.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'allais revenir avec toi sur, à un moment donné, cette idée que tu as de « Ok, en fait, j'ai voulu faire de la BD en même temps que…
Ah, » cette idée ?«
Ma femme est enceinte. » Tu vois.
Ok. C'est marrant parce que… Attends, je te laisse finir ta phrase.
Et en fait, je me demandais qu'est-ce qui t'avait fait, à un moment donné, avoir le déclic.
C'est horrible. Car c'est horrible. Mais bon, c'est bien parce que ma fille le vit bien. J'avais déjà deux boîtes, en fait, quand mon ex est tombée enceinte. Et j'avais encore du temps. J'étais un petit peu... J'étais diagnostiqué workaholic, en fait. Donc j'avais encore du temps. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps? Et là, je me suis dit, c'est ouf, hein. Je me dis, mais attends, tu vas avoir un enfant, elle va aller, tu vas l'amener à la maternelle. Regarde comment le cerveau il est barge. Ses copines vont lui demander qu'est-ce que ton père fait. Et donc ta fille de 3-4 ans, elle va essayer d'expliquer que. Tu vois, qu'est-ce qu'elle va dire. Et je me suis dit, mais si tu fais de la BD.
Ah ouais.
Elle va aller à la maternelle, on va lui demander qu'est-ce que fait ton papa. Elle va dire, mon papa il dessine, il fait des BD, et puis c'est réglé, tu vois. Je veux dire qu'il n'y a plus de problème. Son intégration elle est simple. Parce que va expliquer quand t'as 3 ans à une école, à une classe de 3-4 ans, que ton père il a deux boîtes dans la com. C'est impossible, tu vois. Dès le début, je lui tire une balle dans la jambe, tu vois. Alors que là, j'associabilise. Alors, c'est pas une blague parce que ça m'est vraiment passé par l'esprit.
Ok.
Tu vois, c'est vraiment, je me suis dit, ah, mais ouais, mais c'est vrai. T'as toujours voulu faire de la BD. Et donc, c'était pas seulement comme ça superficiel, parce que c'était aussi me dire, tu vas avoir une enfant qui va naître. Parce qu'en fait, c'est ça le débugage psychologique. C'est, vas-y, remets-toi une boîte dans le dos, remets-toi une boîte sur les épaules, et puis fais bien en sorte de jamais être chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Fais bien en sorte de pas être là pour ta fille. Pars bien sur cette direction. Et je pense qu'inconsciemment, mon cerveau m'a dit, trouve un truc qui fait que tu vas pouvoir le faire chez toi. Et donc, j'ai passé une journée par semaine à la maison à dessiner. Tu vois? Et donc, c'est comme ça que petit à petit, le truc s'est mis en place. Voilà l'idée.
Ah, je pensais qu'il y avait un truc de... Je pense qu'il y a pas mal de pères qui... créer des trucs en même temps que leur femme est en train de créer un enfant, tu vois.
Mais c'est ça aussi.
C'est ça aussi.
Mais ça, oui, ça se. Ça, c'est, moi, je te l'ai raconté comme je l'ai vécu, mais si on prend un peu de recul, tu de toute façon, quand je te dis en prémisse, c'est elle a fait un bébé, j'ai fait une BD. C'est une histoire de se mettre, tu sais, t'as vu, on crée tous les deux quelque chose de nouveau, quoi. Tu vois, donc évidemment, je te rejoins là-dessus.
Ok.
Dis-moi en plus.
Qu'est-ce qui t'intéressait? En fait, je cherchais à comprendre un petit peu le pont entre je décide de dessiner, de mettre au dessin, tu vois, de ouais. mettre à la BD, et je me dis que je vais mettre en scène et que je vais dessiner le fait d'être père.
Ça s'est pas fait tout de suite, en fait. Ouais. J'ai commencé à faire de la BD parce que c'est ça que je voulais, et il a fallu les premiers temps, c'est des temps, tu sais, c'est des troncs communs, en fait. C'est-à-dire que avant de te spécialiser, que tu le veuilles ou non, t'essayes plein de trucs. Et donc j'ai un petit peu fait ça. La première année, les premières années, un ou deux ans, j'ai sorti un truc qui s'appelait Fucking Karma. Le deuxième album a pas assez fonctionné pour que, non, le premier album a pas assez fonctionné pour qu'on en fasse un deuxième, mais ça a été une expérience de fou parce que j'ai pu cette fois comprendre l'édition du côté ouais. auteur. Donc j'ai pu Et puis je suis rentré en réflexion. Et puis à un moment, effectivement, comme puisque j'ai pas inventé la roue, hein, quand t'es parent et quand t'es auteur, t'as un matériel de ouf devant les yeux. Et surtout quand ils sont petits, parce que c'est là où il y a le plus d'accidents, le plus de drames. Donc soit tu en fais une tragédie, ou soit t'en fais un truc drôle. J'avais plutôt envie d'en faire un truc drôle parce que c'est ce que j'aime partager. Donc voilà, je me suis dit, j'ai fait des maths simples, hein, une équation simple, enfant, dessin, BD sur enfant. tu vois ou pas? Je vais pas chercher loin mes trucs, hein, excuse-moi, mais la chance que j'ai eue à cette époque-là, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça.
Ouais.
Tu vois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas, on n'avait jamais fait un truc sur, vraiment cet angle-là, c'est-à-dire on a deux enfants, sauf qu'il y en a un, c'est le parent de l'autre. Mm. Tu vois, parce que c'était ça, hein, Maé, parce que on parle de cette BD que j'ai faite, c'était juste ça. Mm. C'était, je suis pas encore fini, et pourtant je suis vieux et on met un enfant dans les pattes. Et c'est une fille. Et évidemment, moi je voulais un garçon parce qu'à l'époque on avait le droit de dire qu'on voulait des garçons. Pourquoi
tu dis ça?
Parce que j'aime bien. Je t'avais dit que j'allais me mettre dans l'impasse.
Non mais pourquoi tu dis qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de dire qu'on veut un garçon?
Non, parce que la façon dont je voulais un garçon, c'était très genré aussi. Ah. C'est une ellipse pour dire que la façon dont je voulais un garçon, c'était, tu vois, un bonhomme, quoi. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pleuré deux fois. J'ai pleuré avant la naissance, à l'écho, quand j'ai vu que c'était une fille, je suis sorti, j'ai chialé.
T'étais déçu, t'étais triste?
Bien sûr, j'étais triste. Évidemment, j'étais triste, j'étais déçu, parce que, en plus, j'étais très, très, très macho et très... J'ai pas été très gentil avec les filles. Okay. Et donc, je voulais pas que ma fille tombe sur un mec comme moi. Tu vois? Donc,
je vois exactement.
Je me suis dit, il est possible que Dieu existe, et il est possible qu'il ait décidé de me punir. Et il a trouvé la meilleure façon de le faire. Tu vois? Donc je suis sorti comme ça. Mais comme je dis, j'optimise. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, je me suis mis, et c'est véridique, je me suis mis dans un parc. Et j'ai regardé les gamins. En train de dire, regardez les garçons, regardez les filles, pourquoi j'ai pas ça? Et je me suis dit, ouais, mais attends, regarde bien, en fait, les filles sont tellement plus cool. Tellement plus cool. Et regarde les petits mecs, comment ils sont. Il y en a qui a un vélo, l'autre il veut le même, et il veut celui-là. Alors que les filles sont machin. Et je me suis rappelé tout le lire des filles beaucoup plus proches des pères et tout. Donc bon, ça m'a apaisé. Et après, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui elle a décidé d'être une fille, et mais en même temps de pas être emmerdée par les délires de fille. Donc elle joue au foot, elle a vraiment développé ça. Ce qui m'a mis vachement à l'aise. Après, il n'y a pas de mystère, parce que je l'ai aussi aidé à développer tout ça, à garder sa féminité tout en faisant du karaté, jouer au foot.
Je lui ai mis un ballon dans les pieds et je lui ai dit, vas-y, tape. Je lui ai montré Zidane et je lui ai dit, tu vois, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est mise au foot.
Je ne comprends pas. On a fait tous les matchs de Zidane. On a été invités à ses anniversaires. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, effectivement, elle est fan de foot. Elle a pleuré quand le PSG a perdu dernièrement. Et ça, c'est vraiment elle, parce que j'aime bien le foot, mais pas autant qu'elle. Ouais, vraiment. Donc, je ne sais plus où on en était comme d'hab.
Non, mais c'était intéressant ce que tu racontais. Ça t'a apporté quoi en tant que père, de dessiner au quotidien les relations à ta fille ou...
En tant que père, pas grand chose, franchement.
Okay.
En tant que père, pas grand chose, parce que autant j'ai mis du temps à être père, mais une fois que c'était ok. C'est-à-dire que j'ai tout fait, quoi. Tu vois, c'est marrant, j'ai tout fait. Non, j'étais pas en train d'étouffer, j'ai tout fait.
Je l'avais compris.
Il y a peut-être un lapsus qu'on va creuser après, mais en tout cas, peut-être que j'ai tout fait à vouloir tout faire, c'est aussi intéressant. Ah, mais ouais. J'étais extrêmement présent, je changeais les couches, je faisais vraiment tout le délire, et puis sans chercher à me demander si c'était pour les bonhommes ou pas, tu vois, c'était ma fille. Il était important pour moi d'être présent pour elle, et donc j'ai tout le délire, je l'ai fait. Quand je dis le délire, c'est pas histoire de mettre un peu d'ironie, mais le parc, les histoires, vraiment.
Comment t'as fait pour faire entendre au macho qu'il y avait en toi et qui pleurait quand il s'est rendu compte qu'il avait pas de fille, qu'en fait c'était un truc qu'il pouvait faire lui.
Tu veux dire m'occuper de ouais, d'un enfant. Ouais, d'un... Ça, pour moi, ça avait rien à voir. Okay. Ça aurait été un garçon ou une fille, ça aurait été pareil. C'est-à-dire, okay. C'est-à-dire assumer une responsabilité de manière un petit peu inconsciente, j'avais déjà. Okay. Pas aussi exacerbé que. Mais tu vois, il y a un moment où tu dis, mec, t'as été d'accord pour que ça se passe. Ben, il faut que tu fasses le truc au top, quoi. Tu vois, sinon, c'est pas. Sinon, fallait pas le faire. Voilà, t'as été OK. Donc, faut être là. Quoi. Donc, de la même manière qu'il était hors de question lorsque on s'est séparé avec son ex, que je vois Maë qu'une semaine sur deux. Et puis après, et puis de toute façon, je serais mort, en fait, parce que j'avais tellement de liens. C'était tellement fort avec ma fille. Donc, en tant que père, cette BD m'a pas apporté grand chose.
Okay.
Mais ça m'a amusé. Et puis c'était marrant pour moi de me dire, tiens, Maë, elle aura sa BD, à son nom. Elle était persuadée qu'en fait tous les enfants avaient. Tu vois que c'était un truc, c'était pas extraordinaire, parce qu'elle voyait des BD qui s'appelaient Lou, qui s'appelaient Cédric, et c'était les mêmes prénoms qui étaient dans sa classe. Donc dans sa tête, c'est. J'ai ma BD, mais tous les gamins ont leur BD, donc elle a mis du temps. Mais mon délire, c'était ça, c'est de dire, voilà, c'est un truc qu'on aura entre nous, quoi qu'il se passe, parce que peut-être que je vais bien merder, parce qu'on sait jamais, peut-être que je vais pas être un si bon père que ça. En tout cas, je veux que tu saches qu'il y a un moment, t'as été extrêmement précieuse pour moi, et je veux que tu te souviennes de ça. Donc c'était une façon de passer ce message-là. Donc peut-être que ça m'a apporté ça en tant que père, mais après, la vérité, c'est que c'était surtout du fun, tu vois. Ce que je vivais en tant que papa, je vivais avec elle. Après, ça nous a amené des délires pendant les dédicaces, tu vois, de la proximité, des choses comme ça, mais je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Donc,
comment t'as fait pour, à ce point-là, pas merder?
Ah, mais j'ai merdé, hein. J'ai merdé, par principe, j'ai merdé, mais comment j'ai fait pour... Alors, parce qu'en fait...
Parce que tout à l'heure, tu disais, si jamais je merde lourd, au moins tu te souviendras que...
Oui, parce qu'en fait, je pense que j'ai deux façons de voir les choses. La première, c'est de penser que tout est possible. Je peux merder. Et je peux merder grave. Mais la deuxième, c'est de dire, ouais, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment je me relève. Déjà, est-ce que je me relève? Comment je m'enlève, qu'est-ce que je répare et qu'est-ce que tu vois. Donc, pour moi, c'est pas l'erreur ou la merde, c'est pas la fin en soi. C'est un parcours incontournable de l'individu, parce que l'image qui me fait toujours rigoler, c'est marcher, c'est juste gérer un déséquilibre constant, c'est éviter de se péter la gueule. Tu vois, donc, et je pense que la vie, c'est ça. Ben, des fois, tu vois, c'est. Et puis, des fois, tu te pètes la gueule et tu te relèves. Donc, comment j'ai fait pour ne pas merder? J'ai merdé grave. Et je me suis dit, ouais, faut que t'arrêtes de merder. Tu vois, faut arrêter maintenant. Parce que si tu t'arrêtes maintenant, ça va. Si tu continues, donc démerde-toi pour mettre en place tout ce qu'il est possible. Renseigne-toi, remets-toi en question. Fais tout le trajet intérieur, extérieur possible pour que ça arrête. Parce que si t'arrêtes maintenant, tu peux infléchir la direction et tu arriveras là où il faut. Et donc, ça n'a été que ça. Tu vois, c'est... on divorce, je gère hyper mal mes émotions, je gère hyper mal mon rapport à ma fille, j'oublie que mon rôle maintenant, c'est pas d'être seulement dans la paternité, mais c'est aussi être dans la paternité et dans la maternité, c'est-à-dire développer une capacité d'accueil et d'empathie, tu vois. Mais ça, j'oublie parce que j'ai pas fait les erreurs qui me permettent de m'en rappeler, jusqu'au moment où je m'aperçois que effectivement, bah, quand elle est à la maison, elle a besoin des deux, tu vois. Donc je rectifie ça. Et petit à petit, des erreurs qui étaient extrêmes, bah, en avançant, bah, la vibration, ou je sais pas comment on dit ça, ça se calme.
Okay.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est de plus en plus facile de s'améliorer et de faire moins d'erreurs. Mais j'en ai fait des énormes, et j'en fais encore. Elles sont moins catastrophiques qu'avant. Et celles que je ferai demain seront encore moins catastrophiques qu'aujourd'hui. Mais c'est accepter qu'on en fera et accepter qu'il faut les réparer. En tout cas, j'ai pas d'autre solution.
Okay.
Ou alors l'alcool, la drogue et la vente d'enfants, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution.
Pas non plus, je pense.
Pas non plus le meilleur délire en tant que père. Donc voilà.
Est-ce que t'as la sensation que le fait d'avoir une fille t'a apporté à toi avec le recul? Imagine sur Terre 2, Paco a un garçon. À quel point Paco est un mec sur Terre 2 est un mec différent du
complet,
Paco aujourd'hui?
Complet. Mais de toute façon, je me rends compte que j'aurais pas pu avoir de fille. Pardon. Truc de ouf.
Coucou Maë.
Il a deux, il vit avec deux filles et une femme, tu vois. Et en fait,
mais
là, tu vois, là le cerveau il disjoncte. Là, Paco de vient d'arriver, il dit, tu peux pas avoir deux filles, mec. Nous, là, on est qu'avec des bonhommes, on s'éclate. Franchement, wouh, délire. Tu vois, là, le Paco de il est venu. Donc, on va revenir un petit peu là sur terre. Là, ouais, folie, football, karaté, truc de ouf. La réalité, c'est que la possibilité d'avoir eu une fille, et puis après de vivre avec Margot, qui est d'une féminité quand même assez exquise, ça m'a obligé justement de continuer à lâcher le macho, tu vois, à ouvrir des choses beaucoup plus intéressantes pour moi. Alors je perds pas le courage, mais il est beaucoup plus utile. Il est moins gueudin, foufou et casse-gueule, et puis prétentieux et arrogant. Moins. J'ai pas encore tout perdu, mais moins. Je pense que j'aurais eu que des mecs. Je sais pas si... je pense qu'on aurait été... Parce que tu sais, c'est quand même... On aurait été en majorité, et la voix féminine aurait été forcément en minorité. Et toute la famille aurait été très testostéronée. Et donc, avec ce que ça peut comporter parfois de relou. je sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais j'ai une super anecdote j'étais en Espagne et j'étais là avec mes deux filles et ma femme, et en face je voyais une femme avec ses deux fils et son mari, et elle me regardait genre c'était du non-verbal dans les yeux. Et elle me regardait genre, mais quelle chance vous avez. Et moi, je dis, vous êtes sûr? Elle me disait, ouais. Je dis, bah, ok. Tu sentais que la meuf, là, sa semaine avec ses trois bonhommes, tu sentais qu'elle les aimait, mais que c'était trop. Tu vois, c'était trop intense. J'ai pas ça. Alors après, j'ai appris à m'adoucir, appris à gérer ça. Donc je pense, pour répondre à ta question, parce que tu avais une question très précise, je pense que ça aurait été deux êtres totalement différents. Je suis pas sûr que l'autre aurait été meilleur. C'est pas une généralité, c'est vraiment moi. Parce que je pense qu'effectivement, dans d'autres familles, dans d'autres couples, ça peut se passer différemment. Mais pour ma part, si j'avais eu deux garçons, ça aurait été un camp de... Ça aurait été chaud, quoi. J'ai pas l'image. Mais tu vois, ça aurait été le bordel. Surtout pour la maman, elle aurait été... Enfin bref. Donc voilà.
Ok.
Et à tel point qu'aujourd'hui, je sais pas si j'ai envie d'un garçon. Bon, la question se posera plus. Mais je préfère. Mais c'est vrai que autant je suis d'accord pour avoir des petits-fils et des petites filles, autant avoir un garçon, je sais pas. J'ai tellement de plaisir à vivre avec mes filles que voilà. Après, il y a aussi des trucs chiants, mais bon, bref, on va passer là-dessus.
Et quand tu dis avec tes filles, tu parles de ta belle-fille, donc, qui est...
De Lou, qui est ma belle-fille, et de Maë, qui est ma fille, ouais.
Voilà.
Oui, parce que ça aussi, ça a été un délire. Hein,
j'allais t'en parler.
Il y a une responsabilité à assumer aussi. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y a un package, en fait. Mais il y a un package... Et il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que...
Tu veux dire, il y a un package avec Margot.
Ouais,
avec Margot.
Si tu te mets en couple... Alors, moi, si je me mettais en couple avec Margot et si je l'aimais, je ne pouvais pas dire, ok, toi, je t'aime.
Mais t'as relou de fille. Là.
Ah, tu vois, je ne prends pas. Ou je prends, mais je fais croire que je prends, mais en fait, tu vas bien voir que je ne prends pas.
Ouais.
C'était impossible pour moi, tu vois, d'avoir ce truc-là. Donc, c'était vraiment, encore une fois, à chaque fois, une remise en question de, oui, ce n'est pas ta fille. Non, tu n'es pas son père. Mais tu dois avoir autant d'amour, de respect, de considération pour cet enfant que... Tu vois, c'est l'image qui était très simple pour moi, c'est que tu l'as adopté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas de ton sang, mais tu l'as adopté. Donc tu as autant de responsabilités qu'avec... avec une petite différence, c'est qu'elle a un père. Donc il y a une limite toujours à bien respecter. Mais ça, mis à part... voilà, c'est je l'ai adopté, donc j'aime sa mère, je l'aime, et il n'y a pas de question qui se pose. Et voilà. Et j'avais même une formule dans ma tête que je vous ai tournée, parce qu'il est possible qu'un jour cet enfant me dise « Tu n'es pas mon père ». Et je sais exactement quoi lui dire. Je dis « Non, je ne suis pas ton père, mais je suis l'adulte dans cette maison, et je t'aime, et tu es sous ma responsabilité. Donc voilà pourquoi je fais ces choix-là. » J'ai dû tellement le répéter qu'on n'a jamais eu besoin d'avoir cet échange-là. Mais tu vois, c'était l'idée, c'était de me dire, voilà le cadre, quoi, voilà le cap, en fait. Et donc, c'est pas parce qu'on a le cap que ça rend les choses plus simples, mais au moins, on sait vers où avancer. Et donc, quand ça partait dans tous les sens, parce que ça part dans tous les sens, eh ben, je pouvais toujours dire, ouais, mais attends, avec Margot, surtout, et Doudou, le cap, il est là. Hein, donc, on n'y arrive pas, c'est difficile, mais c'est vers là qu'il faut qu'on tende. Et la chance que j'avais, c'est qu'elle était d'accord, donc on a pu vraiment avancer là-dedans.
Tu allais te dire, ça a été simple, la rencontre avec elle, non ?
Non, c'était hyper dur.
Ouais.
C'était hyper dur.
Elle avait quel âge quand...
Je sais plus, d'avoir 3-4 ans. La rencontre, parce qu'on était amis avec Margot avant.
Ouais.
Tu vois, donc je la voyais comme ça. Et puis après, je pense que c'est 2 ans après que...
Ouais.
Qu'on lui a dit, voilà, c'est ton nouveau papa. Non, c'est pas vrai, je blague, on n'a jamais... on a jamais dit ça, mais... Ou elle a compris qu'il y avait un truc chelou avec ce mec. donc non, ça a été dur parce que... Et parce que il y a des fois dans des couples, tu es avec la bonne personne quand la bonne personne te permet de progresser, d'évoluer. Mais parfois progresser, évoluer, bah ça veut dire que tu laisses des plumes. Hein. Moi je vois cette image, c'est deux cailloux, tu sais, qui se frictionnent jusqu'à ce que ça se, je sais pas si ça te parle ou si tu avais déjà entendu, mais c'est vraiment cette image là pour moi, le couple, c'est à un moment, c'est voilà, on prend une forme plus douce en se frictionnant. Le problème, c'est que des fois la friction elle fait super mal. Et la chance qu'on a avec Margot, c'est qu'on a dépassé justement ces premières frictions qui étaient extrêmement douloureuses. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de plus cool. Mais au début, c'était dur. L'avantage, c'est que bah, on s'améliore. Enfin, pour moi, tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est que, ok, je perds des trucs, mais je gagne des trucs qui n'ont pas de prix. Donc voilà.
J'ai une dernière question.
Cool.
Mais avant ça, est-ce qu'il y a des sujets dont je t'ai pas causé et dont tu aurais bien aimé causer, en tant que, notamment sur la paternité ?
Non, parce que en fait, je pense que lorsqu'on est daron ou daronne, on a envie de conseils mais pas de leçons, et j'ai peur que, en abordant moi-même, tu sais, un sujet, j'ai peur que ça devienne dogmatique et normatif. Je peux me planter, mais j'ai peur que si c'est moi qui je vais défendre un truc, tu vois ce que je veux dire,
ouais.
Alors qu'en fait, je préfère vraiment répondre à tes questions ou répondre aux questions plutôt que dire moi j'ai vécu ça, donc voilà, ce que je veux transmettre à l'humanité, c'est ça. Je préfère le faire. Enfin, mais j'ai plus de voix. Je préfère le faire poser une question que. Non, je pense que t'as. De là où je suis, j'ai tout. Après, c'est la deuxième interview qu'on fait,
ouais.
Et ça fait partie des meilleures interviews que j'ai. Que...
Ah,
je sais,
ouais,
pas comment tu fais.
Trop bien.
Je sais pas comment tu fais. Voilà, c'est un don. On a tous un talent. Tu dois en avoir plusieurs, et un de tes talents, c'est ça.
Ah, merci.
Donc, mais je te dis en toute sincérité. Donc, je suis à ta disposition. En fait. Tu vois, donc vraiment, toi qui choisis.
Non, on a parlé de plein de choses. La dernière question que je pose, c'est,
ouais,
imagine Maë retombe sur cette interview dans 10 ans.
Oui.
Elle aura donc 26 piges. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ?
Oh, mais est-ce qu'elle sait déjà, mais qu'il faut que je répète tout le temps ?
Pourquoi il faut que tu le répètes tout le temps ?
Parce qu'elle est, c'est une ado, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a pas à se prendre la tête avec ça, que je l'aime, que je suis fier d'elle, que c'est une raison... Ça fait partie de mon top 3 de raisons d'exister. Et que si jamais elle l'oublie, voilà encore un post-it, un reminder. Non, ce que je veux lui dire, en fait, mais elle le sait, c'est tu vas vivre ta vie en toute autonomie, en toute responsabilité. Sache que, quoi qu'il arrive, tu pourras revenir à la maison sans jugement, juste avec on t'aime et kiffe. Bon, voilà, ça c'est... Je ne fais que lui dire là ce que je lui ai répété toutes ces années.
Il y a un truc de transmission qui m'a l'air très fort chez toi. Et ça me rend perplexe, en fait, que... Alors, je sais pas quel...
Tu veux creuser ça ?
Non, mais je sais pas quel mec t'étais quand t'étais plus jeune et que t'avais pas envie d'enfant, tu vois.
Ouais.
Mais j'ai un peu la sensation que t'as vraiment, en tout cas aujourd'hui, t'as vraiment ce truc de transmettre, tu vois. On était... petit spoiler, mais on a fait une interview plutôt sur la carrière avec Margot,
ouais.
Et elle me parlait beaucoup de tout ce que tu lui avais apporté. Et j'ai un peu la sensation que t'es un peu dans ce même truc avec ta fille. Ça me questionne un peu sur qu'est-ce qui faisait que t'avais pas envie, tu vois, quand t'étais plus jeune, de d'avoir ce... de transmettre ça, tu vois.
Il y a deux raisons. Peut-être trois, j'en vois deux. La première, c'est que j'ai mis du temps à comprendre quels étaient mes talents. La deuxième, c'est que pour pouvoir transmettre, il faut avoir quelque chose à transmettre. Et la troisième, c'est que je pense que la chose qui me paraît la plus importante à transmettre, c'est soyez heureux. Et pour ça, il faut beaucoup de sagesse. Tu vois ? Donc, je pense que le temps m'amène justement la capacité d'être de plus en plus sage et de comprendre que la seule chose que je peux transmettre aux gens, c'est « kiff your life and be happy ». Le reste, ça peut remplir des journées, mais je sais pas si ça les remplit aussi bien que là où t'es, mais kiff. Donc si je veux transmettre quelque chose, c'est ça. Mais selon la personne, ça passe par différents biais.
Ok.
Tu vois, donc c'est ça, l'idée.
On est chez vous, là, et ouais. Tout à l'heure, je me suis permis d'aller aux toilettes, et il y a Sénèque.
Ouais, énorme. C'est pas la phrase la plus folle que t'aies pu lire cette journée, aujourd'hui. Au moins aujourd'hui.
Mais d'une manière générale, je trouve que tout ce que fait Sénèque est fabuleux.
Mais là, on est sur l'essence même de l'existence, en fait.
Alors ici, Fabrice, je vous fais un petit intermède, parce que forcément, vous n'avez pas vu la phrase en question, dans les toilettes. Donc c'est une phrase de Sénèque qui a été complétée par Montaigne, notamment autour de la métaphore maritime. Donc il dit « Être heureux, c'est apprendre à choisir, non seulement les plaisirs appropriés, mais aussi sa voie, son métier, sa manière de vivre et d'aimer. Choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Bien vivre, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations, à hiérarchiser ses priorités. » L'exercice de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie. Et ce, aux deux acceptions du terme. Nous lui donnons à la fois une direction et une signification.
Parce qu'en fait, quand tu as trouvé un sens à ta vie, et le mec il te dit exactement sur quoi peut... Alors, ma limite, c'est que... Je suis encore en réflexion parce que j'aime les trilogies. Je pense que les choses se stabilisent lorsqu'il y a trois piliers. Peut-être que c'est idéologique, hein, j'ai pas encore. Et ma difficulté avec cette phrase que je trouve assez unique, c'est qu'elle ne repose que sur deux piliers. Peut-être qu'il en manque un troisième. Peut-être, je sais pas. Mais effectivement, se dire que c'est la signification, la direction, c'est ouf. Et que tout ça s'est résumé à, dans un mot. Quand tu comprends ça et que tu essaies de l'appliquer au quotidien, et sans faire de la philo, parce que moi je suis pas un philosophe, hein, c'est pour moi c'est un ingrédient que j'utilise pour avancer dans la vie, donc mais sans faire de la philo, tu dis ah ouais, donc si je peux sortir de mes frustrations, de mes difficultés en m'interrogeant sur où est-ce que je vais et qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, tout le monde peut le faire, hein, à n'importe quel niveau, donc c'est bien de le mettre au chiot, je trouve. Tu vois, c'est là où tu dis eh, où est-ce que je vais et quel sens ça. Ok. Je vois mieux ce qu'il dit. Et toi, comment tu vis ça? Parce que si ça t'a interpellé, c'est que t'as eu une relation avec Sénèque.
Ouais, j'ai découvert Sénèque il y a quelques temps, en fait, ouais. Il y a quelques années, ouais. Et tout le stoïcisme qui va autour, ouais, en fait. Ouais. Et une fois que tu comprends ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était des trucs que je faisais très empiriquement.
Exactement.
Et en fait, quand j'ai remis les trucs ensemble, tu vois, que j'ai découvert après Marc Aurèle aussi, le journal de Marc Aurèle.
Tu dis quoi? À cette époque-là, le gars, il tripait déjà là-dessus? Ah ouais, ok.
Énorme. C'était le mec qui était à l'époque le maître du monde, hein. C'était l'empereur de l'Empire romain. Et en fait, quand tu découvres tout ça, que tu lis tout ça et que tu te rends compte à quel point c'est toujours moderne aujourd'hui dans notre société actuelle.
Et malgré tout, bienveillant et responsable. Quand tu remets ça dans le contexte où il y avait quand même des esclaves, tu dis que malgré ça, le gars, il avait une vista, quoi. Il était, tu vois. Ouais. Mais dis-moi en plus, j'arrête pas de te couper. Donc non,
ça m'a énormément marqué, ça m'a beaucoup aidé. Tout l'aspect, il y a des choses sur lesquelles il faut savoir lâcher prise.
Carrément.
Parce que c'est notamment pour tout ce qui est paternité, quoi. Carrément. C'est un vrai truc.
Qu'est-ce qui a un sens? Et surtout, comprendre qu'on n'a pas tous le même sens. Mais si on a trouvé le sien, c'est plus facile d'avancer. À mon sens, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, c'est pas définitif. Parce que le sens, moi je sais que le sens quand j'avais 8 ans, c'était monter sur les cerisiers et me gaver de cerises. je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le même délire, tu vois, le sens de ma vie, il est, tu vois, oh, on va en acheter. Tu vois?
Donc, c'est moins compliqué.
C'est moins compliqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut, il faut retenir. J'ai peur qu'on passe notre après-midi à discuter, parce que tu es extraordinaire.
Oh non, mais arrête, c'était super de discuter avec toi.
Mais je vraiment. Pense qu'on a fait le tour, à moins que tu aies des trucs à me dire sur ta paternité.
Non, c'est bon pour moi. C'est pas mon interview, c'est la tienne. Merci beaucoup, Paco.
Fabrice, je te remercie énormément.
Plus.
À très bientôt.
Salut.
Ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.